Un homme mulet.
On s'était rejoint.
Oui, j'avais une ou deux remarques. La première, je trouvais que c'était très intéressant, cette idée de type de discours, c'est-à-dire un discours qui est très affectif et d'autres moments où un discours n'est pas du tout affectif. Et des relations avec l'organisation où on a une part qui est affective et des moments où l'affectif n'a aucune part. Et je trouvais que, je ne sais pas en termes de recherche de nouveau, en termes de communication, mais ça serait intéressant de regarder les moments, je dirais par exemple dans un entretien d'évaluation, ou en tout cas de regarder dans la manière dont une personne restitue ses entretiens d'évaluation, son vécu dans l'entretien d'évaluation, de voir s'il y a des moments où le manager accorde une part à l'affectif et des moments où par contre il n'y aurait pas de part à l'affectif. Parce qu'au fond, derrière ce que tu évoquais, il y a plus ou moins l'idée de reconnaître la personne et ce qu'elle vit ou non. Et visiblement, dans le temps de vie d'une entreprise ou d'une organisation, il y a des moments où on est plus instrumental et où on reconnaît ça, et d'autres où on ne le reconnaît pas du tout. Et la deuxième chose, c'était faire le lien avec ce qui a été évoqué sur les systèmes qualité globalement. Enfin, j'y pensais aussi par rapport à ce matin. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il y a tout le temps cette question des échanges qui sont ou contrôlés ou non contrôlés. Finalement, tout le problème qui a été évoqué dans ce caractère procédural des entretiens, par exemple d'évaluation, c'est que ça n'est pas gratuit, c'est tout le temps finalement contrôlé, en plus si finalement il y a une norme, une fiche, etc. Et donc ça me pose la question, enfin j'y pense aussi parce qu'on a travaillé donc avec Marie-France Parlon à faire un film, et qu'on s'est demandé justement quelle était la place, par exemple, de la fiche de poste, la place éventuellement d'un guide d'entretien d'évaluation. Et est-ce que les acteurs se reconnaissent une liberté dans l'entretien de l'évaluation par rapport à ces éléments, je dirais, de procédure? Et je fais le lien aussi par rapport à ce qui s'est dit ce matin, c'est-à-dire cette idée de gratuité dans les échanges. Et finalement, ce que j'ai trouvé un peu inquiétant dans les systèmes de qualité, un peu comme tu l'évoquais, c'est que finalement, il y a eu une fascination pour les procédures comme si la procédure valait débat. C'est-à-dire que finalement, on industrialise l'échange et on considère que du coup il a eu lieu alors que finalement on l'a tué. Et puis la dernière chose aussi, c'est sur le lien avec les systèmes de gouvernance, l'entretien d'évaluation comme un mode de gouvernance. Et ça fait le lien aussi avec ce qu'a dit Georges Trépeau avant. C'est que, pour le dire très vite, je crois qu'on est passé d'un système d'assignation des places dans la société à un autre, et que c'est à la fois lié à des modifications politiques. Enfin, j'y crois vraiment beaucoup, c'est-à-dire que finalement, on a été progressivement dans un système politique où les places devaient se signifier par rapport à une logique de libre initiative et de marché. Et c'est quelque part, à mon avis, c'était positionné par rapport à un autre mode de fonctionnement bureaucratique qui, au bout d'un moment, a été situé plutôt à l'Est, dans les pays de l'Est, si je peux dire ça comme ça. Et que finalement, l'entretien d'évaluation a été un des moyens de produire, je dirais, de soutenir une autre vision de la relation managériale, de l'organisation du marché de travail. Et pour le dire enfin, de manière d'assignation des places par rapport à quelque chose qui est la valeur de la personne construite autour des compétences. Et que finalement, ce que je trouve intéressant dans l'entretien d'évaluation, c'est qu'il permet de légitimer la lutte des places, de donner un prix à ce qui est fait, et peut-être même de légitimer, dans certains cas, la mise à mort. Voilà.
Vous voulez réagir?
De toute façon, c'est évident que c'est une... Quand vous dites formalisation, explicitation, ça veut bien dire que quand on dit « je me dois d'emporter l'adhésion », quand on dit tout ça, on voit bien que on sait tous qu'un système considéré comme illégitime va coûter cher en termes de résistance passive, de non-adhésion, de, etc., etc. Donc, comment emporter l'adhésion dans un système qui est ce qu'il est, et comment mettre un maximum de légitimation. Alors, malheureusement, souvent, légitimation est mise comme en égalité avec objectivation. Et j'ai beaucoup apprécié le fait de dire que cette quête de l'objectivation, elle est quelque part d'abord vaine, parce que, bon, et deuxièmement, elle est peut-être en partie dysfonctionnelle, c'est pour faire fuir le subjectif, mais le subjectif, enfin bon, c'est encore un vaste débat.
Donc effectivement, bon, je trouve intéressant de mettre en évidence que dans un entretien, il y a effectivement deux dimensions, une dimension objective et une dimension subjective, et que la dimension subjective semble occultée, mais... Bon, ça renvoie, je dirais, certainement à une conception anthropologique, à savoir que bon, le travailleur, est-ce qu'il est vraiment pris dans sa totalité? Certains parlent de réduction anthropologique, il y en a de nombreux d'ailleurs. Bon, enfin, le deuxième point, c'est la dimension mortifère de la procédure. Je serais peut-être moins désespéré en disant que si pouvait devenir des objets de médiation, justement, pour créer des espaces de délibération, finalement, ça serait de bons objets. Mais ça devient de mauvais objets dans la mesure où ils se limitent à eux-mêmes, quoi. Et que finalement, leur finalité symbolique est supprimée. Mais si on pouvait faire comprendre que la dimension symbolique est finalement plus importante que la dimension procédurale, et donc finalement que c'est un temps de création d'un certain lien social, finalement, exceptionnel par rapport à la vie habituelle, donc je serais peut-être... Je pense que c'est quand même... apparemment, c'est quand même quelque chose auquel tout le monde aspire dans l'enquête que vous avez faite. C'est l'utilisation qu'on en fait qui est discutable, quoi. On est en train de faire le procès de l'évaluation, peut-être qu'on se venge, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était douloureux, quoi. C'est ce modèle un peu archaïque auquel tout le monde a été plus ou moins soumis, quoi.
Je voulais simplement revenir sur justement le lien entre ces moments d'entretien. Alors, c'est vrai que le gestionnaire en attend des choses. Je trouve que ça ne marche pas très bien, quand même. Je vois encore une entreprise où j'étais, 2800 personnes. Le gestionnaire des ressources humaines ne sait pas qu'en faire, quand même.
Oui, oui.
Hein, en pratique, puisque ça a quand même deux objets assez différents. Hein. La première, qui est de faire remonter dans la gestion des notes, enfin, je ne sais pas quoi, un truc qu'on pourra agréger à un moment donné. Et puis, par ailleurs, avoir un espace avec son manager, quoi. Et suivant on observe d'un côté, pour faire remonter plus facilement des notes, finalement, on va se passer d'entretien, à faire des grilles à cocher, parce qu'au moins ça, on peut l'informatiser. Et donc, derrière, on aura une connaissance très, très faible, mais facile à traiter. Et de l'autre côté, des connaissances assez fines, mais assez mal retraduites dans les papiers qu'on a, et on ne sait pas comment faire. Ils vont au tiroir, parce qu'on sait, quand on a 2800 et qu'on a... Je ne sais pas, un mois pour traiter ça, on ne peut pas les traiter. Enfin, c'est pas possible. Donc, il y a ce point-là. Moi, ce que je voudrais revenir, c'est du côté quand même du salarié là-dedans. Je veux dire, je vais vous donner une petite expérience qu'on a eue. On est intervenu dans une des entreprises, là, comment dire, vous avez noté ça, une entreprise qui a été qualifiée par l'ancien président de la République d'une entreprise de voyous, hein, Metal Europe.
Ah, hein.
Oui. On est intervenu après, dans cette entreprise-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous frappe? C'est que là, il n'y avait pas d'entretien. Alors là, pas de procédure d'évaluation, rien. Hein. Donc on a des gens qui se retrouvent sur le carreau, hein, et ils n'ont aucun mot pour dire leurs compétences. Rien, c'est-à-dire. Et la seule chose que va faire la cellule de conversion, c'est de leur dire « faites le deuil ». Faites le deuil de votre truc, et ils ne vont pas rebâtir un récit de vie, si vous voulez. Hein. J'y crois beaucoup quand même à ça, hein, cette idée de pouvoir construire un récit de sa propre expérience. Je ne sais pas si l'entretien d'évaluation le permet bien, mais en tout cas, quand il n'y en a pas, c'est assez tragique. Quoi. Et que l'autre difficulté qu'on rencontre, là, pour intervenir dans des entreprises un peu en amont d'une crise finale, c'est quand même la difficulté de parler de ça. Hein, je veux dire, vous dites ça arrive rapidement, sans ménagement. Moi, je suis intervenu des entreprises sous-traitantes d'Arcelor. Le patron d'Arcelor a bien annoncé qu'il y avait 3 ans devant, ce qui n'est quand même pas rien pour agir. Personne ne veut en entendre parler, quoi. Hein, donc Arcelor sait le faire pour lui-même, mais les sous-traitants, non, on va dans le mur, tout droit, mais on y va, quoi. Donc c'est quand même pas très simple, quoi, ces histoires autour de ce que vous appelez la rupture des identités. Quel est le lien des autres outils de management? Et puis de la question même de comment on peut préparer ces choses-là, quoi, qui sont dramatiques quand elles arrivent quand même.
Juste une petite réaction. Il y a pas mal d'entreprises où on a mis en place des passeports professionnels. Enfin, peu importe le nom. Mais la personne a un petit livret dans lequel elle consigne toutes ses formations, toutes ses expériences, et on l'aide dans le cadre d'une idée d'employabilité, quoi, hein, de construire un passeport professionnel. Et ça se fait dans des très grosses. Hein. Ça s'est fait à France Télécom, ça s'est fait à l'EDF, et les gens avaient encore en plus pas mal de sécurité d'emploi, mais c'était pour se vendre sur le marché interne. Hein. Je suis un peu surpris de ce que vous dites de Metal Europe. Je ne sais pas si c'est BPI ou qui est intervenu pour le reclassement, mais qui n'ait pas eu de bilan de compétences, qui n'ait pas eu de... C'est quand même...
Mais c'est vrai que...
Oui. Après, ce que je veux dire, c'est que le premier mot que dit la cellule de conversion, c'est « faites-le ». Mais pas du tout avec l'arsenal, mais je blague pas, parce qu'ils n'ont pas du tout la, comment dire, la, d'outillage derrière ça. Enfin, je veux dire, il y a un savoir psychologique quand même quand on l'utilise en maladie. Là, pas du tout. Donc, on fait le deuil, quoi. Et vas-y, quoi. C'est quand même très difficile d'avoir de continuer son identité en ayant fait le deuil de soi-même. Enfin, je veux dire, il y a un truc, quoi.
Surtout qu'on n'arrive pas à le faire si on n'en parle pas. Alors. Et en plus, donc il y a deux problèmes. C'est que d'une part, on n'en parle pas, donc c'est brutal. Et ensuite, je pense que les outils qu'on utilise, comme les bilans de compétences, me paraissent quand même un peu mécaniques. Alors que l'histoire d'un individu, c'est un récit, c'est un roman. Et là, je ne sais pas si en utilisant ces outils-là, on peut vraiment se réparer. Parce que finalement, c'est une approche d'ingénieur, je dirais. Et moi, j'interroge un peu ces outils. Et enfin, il y a aussi un troisième point à ce sujet, c'est que les cabinets eux-mêmes sont dans une logique productiviste parce qu'ils sont évalués sur le temps mis pour recomposer quelqu'un sans vérifier si finalement ça correspond à un projet ou pas. Donc là aussi, le sujet, on n'en tient pas tellement compte. C'est un peu dommage parce qu'on pense qu'on est plus efficace comme ça, alors qu'en réalité, peut-être que dans certains cas, c'est plus long, mais on aurait peut-être des réinscriptions professionnelles plus durables parce que les gens seraient concernés dans leur personne et... Là, ce n'est pas toujours le cas. Mais donc, pour en revenir aux outils bilan de compétences, j'ai souvent l'impression, moi, cette image d'orthopédie graphique, il faut remplir des tableaux. Enfin, moi, je suis allergique aux tableaux, alors ça rend la vie d'ailleurs assez difficile. Mais je trouve que quand quelqu'un souffre, si en plus il faut qu'il remplisse des tableaux, je ne sais pas si c'est le bon moyen, quoi. Ouais, mon cas, c'est trop.
Oui, une deuxième question. Oui, je voulais revenir sur justement cette polarisation sur les entretiens d'évaluation qui sont quand même très symptomatiques du coup d'un mode de gestion qui s'est individualisé et qui avait quand même pour projet, enfin en tout cas pour promesse non tenue, mais de mieux reconnaître l'individu, de mieux reconnaître la singularité par rapport à tous les outils de gestion collective. Or, justement, il y a bien eu un malentendu, et c'est bien aussi ce qu'on entend à travers ce bilan un peu sur les entretiens d'évaluation. Ils n'ont pas tenu leurs promesses en termes de reconnaissance. Et alors, du coup, la question d'une gestion qui met un peu plus seul l'individu face à l'institution qui l'emploie, on peut se dire qu'il y a eu de l'apprentissage aussi de la part des individus de ces situations d'évaluation permanente. Et finalement... Je me dis qu'il y a deux grands écueils. Il y a celui où il y a une lecture uniquement en termes d'acteurs, c'est-à-dire que du coup, on se réfugie derrière le rôle attendu. Et donc, dans ces entretiens, il peut y avoir aussi à se conformer comme chacun entend qu'il convient de le faire. Donc, on remplit les croix, on met des notes. Tout le monde sait que c'est une scène de théâtre qui n'a rien à voir avec quelque chose d'une authenticité ou d'une relation intersubjective, mais qu'il convient de le faire, ça fait partie du rituel de l'organisation. Et alors, ça veut dire quoi d'avoir des individus qui sont uniquement réduits à des rôles? Là, la question de l'efficacité d'ensemble, on peut se la poser hein, très clairement. Lorsque les gens ne sont plus que des rôles et ne sont plus engagés au travail, eh bien, du coup, a priori, ça ne marche plus. L'autre risque, c'est que le sujet soit se prenne les pieds dans le piège de l'idéal, dans le moi idéal, et que le sujet soit un peu nu, se retrouve un peu à nu, avec le risque d'effondrement que cela suppose. Et alors, face à ces deux risques-là, la réalité, elle montre qu'il y a quand même d'autres voies. C'est-à-dire que finalement, si l'on suivait complètement tous les dangers que vous avez un petit peu balisés, plus personne se lèverait le matin pour aller travailler. Enfin, voilà, c'est vrai. Je veux dire, tout est fait pour que ça marche pas bien quand même. Or, ça marche. Voilà. Donc, en arrière-fond, il y a aussi la régulation. Il y a aussi. Alors c'est ça qui est plus rassurant, parce que sinon, c'est vrai que c'est assez dramatique. Donc ça veut dire aussi que les individus arrivent à se construire des rôles d'acteurs-sujets à géométrie variable, que malgré tout, dans les interstices de toutes ces règles et dans le quotidien du travail, il y a des espaces où il y a possibilité de vivre des expériences, alors de reconnaissance, de coopération, bref, de travail, et de réalisation de soi, même si c'est imparfait, des formes de clairière, hein, dont parle Ricoeur, qui sont plutôt rassurants. Et c'est vrai que même si notre attention est très porte beaucoup sur tous les systèmes de souffrance au travail, de dysfonctionnement, et moi-même, hein, évidemment, les demandes, elles émergent évidemment quand ça ne va pas. A priori, on ne devrait voir que ça, que de la souffrance, que de l'effondrement, que de la non-coopération. Or, en fait, on voit surtout ce qui est à expliquer ou ce qui est énigmatique, c'est comment, malgré tout, les gens arrivent à tenir. Et il me semble que c'est peut-être un levier aussi de s'intéresser à ces ressorts de la coopération et de l'engagement au travail pour pouvoir continuer à soutenir à travers des dispositifs alors de gestion, hein, pourquoi pas, ces possibilités de vivre, de rendre le travail tenable dans un contexte qui est complexe et critique, mais pour autant où on doit pouvoir continuer à entretenir des relations au travail correctes, quoi, pour les individus.
Oui, non, mais c'était juste une remarque, enfin, parce qu'avant, quand j'ai eu ma formule un peu sur la mise à bord, c'était par rapport aux histoires de gens où on sait déjà d'avance qu'il faut qu'ils aient une note négative et que quelque part ça peut servir de licenciement caché. Mais je crois que pour qu'il y ait ces fameuses clairières, je pense qu'il est vraiment important que l'interaction, par exemple, de l'entretien d'évaluation soit construite de manière à différencier le moment du récit. Quand tu parlais avant d'histoire de vie ou de récit de vie professionnelle sur l'année, du moment où on va évaluer. C'est-à-dire que si, par exemple, il y avait un engagement sur le fait que dans l'entretien où on raconte ce qui s'est fait, il n'y aurait pas d'évaluation ou de jugement là-dessus, ça pourrait être vraiment un moment de reconnaissance. Mais si, encore une fois, on confond le moment où on recueille les choses, je dirais le vécu intime, et le moment où on va consigner les choses, ça confond en fait trop d'enjeux. Et donc, moi, ça me pose même la question de savoir, un peu comme tu le disais avant, qui devrait évaluer pour qu'il puisse y avoir reconnaissance. Est-ce qu'effectivement il devrait y avoir une seule personne? Est-ce qu'il devrait y avoir un garant qui fait qu'on est bien dans un recueil et où il n'y a pas ensuite sanction derrière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis que la manière dont ça a été construit aujourd'hui, je crois qu'il y a un élément supplémentaire en plus, c'est que c'est un espace aujourd'hui, par exemple l'évaluation, qui est non balisé. C'est-à-dire qu'il peut être tout à fait sympa en termes de possibilités d'échange, ou il peut être aussi très violent. Et que par rapport à d'autres interactions qui étaient plus cadrées, ne serait-ce que parce que finalement les gens avaient une place qui était assignée, et bien finalement ça n'était pas avant porteur de la même violence. À partir du moment où la place que j'ai dans l'organisation est déterminée par un entretien de ce type-là, potentiellement il est porteur de beaucoup plus de violences symboliques dont tu parlais avant, quoi.
Quand vous parlez de régulation, la régulation, elle peut être hiérarchique, elle peut être dans un collectif, elle peut être par des procédures qui fixe qu'il se passera tel et tel. Donc, quand vous avez employé de régulation, moi, j'ai eu tendance à penser que vous vous situez en dessous, en dehors de la régulation formelle, c'est-à-dire la ligne hiérarchique, qui peut dysfonctionner, comme on l'a dit tous les deux. Et d'ailleurs, vous avez très bien montré les deux écueils, le ritualisme, qui est le plus fréquent, et qui est, la, je dirais, le stabilisé stable de pratiquement toutes les situations, et puis quelques épisodes d'identification plus rares. Donc moi, je me disais, vous vous situez en dehors du hiérarchique, c'est-à-dire dans, je ne sais pas si on veut l'appeler l'informel, on reprend le mot, mais et il est évident que j'ai des tas d'exemples où les gens ont une relation délétère avec leur patron, croyez-moi, ils deviennent acteurs et il y a tout un réseau qui se crée contre le patron. Et ils auront sa tête un de ces jours. Ça prendra peut-être du temps, mais ils y arriveront. Bon, à tort ou à raison. Donc, ce que je veux dire, c'est peut-être... Je voulais être sûr, là, vous êtes plutôt dans une régulation informelle qui fait qu'on n'est pas complètement pieds et poings liés à la fois affectivement et à la fois, même, je dirais, dans un jeu de réel politique, sous la dépendance d'un hiérarchique quelconque. Mais peut-être vous voulez rajouter quelque chose.
Non, simplement, ce mot de clairière me paraît intéressant parce que finalement, ça donne une respiration. Et donc, c'est important, finalement, que tout ne soit pas maîtrisé et que, justement, il y ait quand même une part d'informel et finalement, auquel on n'a pas accès, mais c'est peut-être très bien, justement, quoi. Parce que c'est peut-être là que se produit des processus de régulation sur lesquels nous n'avons pas à intervenir, quoi. Donc moi, je pense à l'entreprise clandestine,
oui,
hein, de Gérard Mouillet.
Moi, je pensais à ça tout du long aussi, en me disant, ça a été bien documenté en sociologie par l'école en question, c'est de dire que les régulations, il y a le niveau de l'atelier, puis il y a les étages, quoi. Hein. Dans les étages, ils croient qu'ils contrôlent avec leur tableau de bord, et puis... Et c'était un peu à ça que je pensais aussi.
L'image de clairière est plus poétique. Oui.
Excusez-moi. Je vais laisser poser une dernière question à Valérie Lépine. Ensuite, nous ferons une courte pause rafraîchissante. Et à l'issue de cette pause, on se retrouvera pour, dans cette salle, hein, c'est ici que ça va se passer, bien sûr, mais simplement pour faire ce qu'on a proposé de désigner un temps de reformulation finale. Avec quelques questions qui seront posées notamment par Olivier Dupont et qui nous permettront de conclure cette journée. On part pas, on reste là, comme ça vous pouvez pas partir.
Je me disais aussi. Oui, moi c'est plutôt une remarque ou une réflexion. Il me semble que ce que j'ai entendu cet après-midi, qui est donc centré autour de ces dispositifs parmi lesquels l'entretien d'évaluation pour mettre en œuvre de manière plus institutionnelle et la reconnaissance. Je suis frappée qu'on ait parlé à ce moment-là que du contrat de subordination, de cette négociation tronquée autour de ces objectifs négociés. Et il me semble qu'on évacue quand même complètement la dimension de... Enfin, ce moment-là comme étant aussi un moment de projection dans l'avenir à partir d'une identité de métier, mais peut-être que j'aimerais bien là, entendre Florence Osti répondre aussi. Et de ce qu'on a vu sur les terrains, il y a aussi des moments où c'est la possibilité dans ces entretiens, parce que même s'il y a un lien hiérarchique, on peut faire partie du même métier. Et il y a des formes d'appel à la reconstitution de ces identités professionnelles en disant ben, c'est peut-être le moment, pour la hiérarchie qui dit à celui qui est évalué, de penser à passer les concours, est-ce que tu préparerais pas ça? Et si on faisait cette formation-là, est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais progresser de telle et telle manière? Et je ne pense pas que ce soit forcément instrumental, parce que ce soit dans les PME ou par le biais des concours dans la fonction publique, donner ces outils-là à ce qui sont subordonnés aujourd'hui, c'est lui donner la possibilité de changer de statut, de changer éventuellement de métier. Vous disiez, il y a un stade où à 35 ans, on change de métier. On parle bien de métier, là. Et donc, il y a quand même ces fameuses clairières, il me semble, qui peuvent se jouer dans ces entretiens-là, où on réintègre de la professionnalité, des identités, des trajectoires professionnelles qui s'inscrivent dans des histoires de vie, donc dans des récits. Et il me semble que, alors sans idéaliser, hein, mais on ne peut pas... En abordant cette question de la reconnaissance, n'aborder que ce versant négatif, comme si la reconnaissance n'était que l'envers de la souffrance, du harcèlement, de, des contrats tronqués, truqués, manipulateurs, qui ressort un peu comme une forme de diabolisation des dispositifs entrepreneuriaux et managériaux.
Quand vous parlez, je pense, je vais vous laisser la parole, mais quand vous parlez, je pense à des dirigeants que j'ai rencontrés dans des petites PME auvergnates. J'ai rien contre l'Auvergne, je les ai trouvés assez rustiques. Et c'est vrai que des espaces, ils ont, j'ai pas l'impression qu'ils en laissaient beaucoup. Donc, si vous voulez, les oasis dans le désert, il y en a sûrement, mais j'en ai pas vu beaucoup. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup là. Je vous laisse la parole.
Non. Je pense qu'il aurait fallu qu'on organise peut-être le débat en deux plaidoiries, pour et contre. Ouais, parce que là, vous avez eu peut-être un portrait réaliste, on va dire. Je ne vais pas dire que c'est un portrait à charge. Attendez. Et pourtant, elles tournent, hein, nos entreprises et nos organisations. Moi, je suis enseignant, je suis peut-être un peu déformé, donc en général, je préfère vacciner les étudiants. D'accord ?
Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme vous, je partage le point de vue que c'est quand même des dispositifs nécessaires, mais que ça reste à inventer, à optimiser, qu'il y a un gros travail à faire. C'est pas parce qu'on a fait venir des procédures des États-Unis ou de je ne sais où que le problème est réglé. Voilà. Enfin, bon.
Oui, juste un petit mot pour rajouter que les entretiens d'évaluation, comme les autres outils, sont jamais autoporteurs. Enfin, voilà, ça dépend de l'usage et de comment on les investit. Donc, enfin, moi, l'expérience que j'en ai eue dans mes enquêtes, c'est qu'il y a de tout. Voilà. Ouais. Donc, ça peut être des espaces, effectivement, de construction d'un avenir en commun, ou en tout cas de réflexion et de projection, comme ça peut être des espaces, des coquilles vides. Il y a peut-être quelque chose qui est intéressant de souligner, c'est peut-être qu'aussi ils sont apparus à un moment donné, on a commencé à modifier les critères de recrutement et de gestion des carrières, et on a commencé à recruter des hiérarchies qui n'étaient plus issues du rang, parce que c'était pas bien d'avoir des gens issus du rang, parce qu'il fallait qu'ils puissent être aspirés et, par le haut pour faire partie du management, et que du coup la question du lien entre le management et les collaborateurs, sans avoir partagé le même métier, et bien du coup supposait des dispositifs pour équiper cette relation, et on peut penser que l'entretien d'évaluation était un des dispositifs qui était censé équiper et favoriser du coup une interaction qui sous d'autres formes existait peut-être plus au fil de l'eau ou sous d'autres formes dans des hiérarchies de type professionnel. Enfin, c'est une hypothèse.
Oui, j'ai deux petites remarques à faire. Bon, déjà sur l'évaluation, je voulais rappeler quand même que, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. D'une part, ça dépend de celui qui la conçoit. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on évalue ? Donc il y a deux aspects. On sait très bien que dans le travail, il y a un travail prescrit, il y a un travail réel. L'individu, la façon dont il conçoit son travail réel, il peut avoir droit à une reconnaissance ou pas. Je veux dire, là aussi, c'est pas forcément quelque chose de très objectif. Donc, ça, c'est une première remarque. Et la deuxième remarque, l'évaluation, bon, vous avez parlé beaucoup des entretiens. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'éducation nationale. L'évaluation, c'est impossible dans votre casier pour dire, eh bien, venez signer votre... votre évaluation, ouais. Avec des cases remplies, on va dire une petite phrase un peu pauvre. Alors, il y a une autre évaluation qui est celle, effectivement, d'une inspection tous les 10 ans, 15 ans, ou peut-être jamais d'ailleurs, qui elle aussi va être faite par quelqu'un qui va vous voir pendant une heure et qui, quelque part, va porter un jugement sur 10 ans d'activité. Donc... un autre regard de l'évaluation par rapport à tout ce que vous avez dit.
C'est encore pire.
Oui,
c'est encore pire. Je vais faire une remarque, mais qui répond qu'au début de ce que vous avez dit. Dans tous les cadres que nous avons en formation actuellement, ce qui me frappe, c'est le sentiment de faire du mauvais travail pour tenir ses objectifs. Quand je dis cadre, ça peut être aussi bien les conseillers clientèle par milliers et par milliers dans les banques françaises qui doivent déclarer des chiffres à la semaine ou au mois de placement, à la semaine ou à la journée, pardon, dans certains cas, et qui vous disent dans les entretiens « on fourgue n'importe quoi aux clients », ou des tas de... J'étais encore avec une dizaine de quinzaine de personnes qui disent « on ne peut pas faire son travail correctement ». On bâcle le boulot, on n'a pas le temps. Mais il faut faire ses chiffres. Ce qui compte, c'est les chiffres. Et je suis désolé, ça sera sur les objectifs que vont, et les chiffres que va se jouer 80% de l'évaluation. Et ça commence à devenir grave quand tous ces gens me disent on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire. Au niveau de ce que serait un travail bien fait selon leurs critères, leurs valeurs. Et ça, vous le constatez sans doute autour de vous.
Pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, bon, j'ai un exemple très, très précis en tête. Lorsqu'on demande à des employés de banque de faire de la prospection pour obliger les personnes âgées à prendre des cartes bleues, enfin des cartes de paiement, en leur disant si effectivement vous ne prenez pas votre carte, vous ne pourrez plus toucher votre retraite. Voilà. Donc il y a un problème éthique effectivement qui se pose au niveau du travail. Et une question un petit peu subsidiaire par rapport à ça, qu'est-ce que le bon travail ? Bien faire son travail, c'est quoi ? Moi, j'avoue que...
Je pense que tous les gens que j'ai autour de moi, je ne sais pas, c'est ce qu'on vous a appris d'abord à l'école, même ce que l'entreprise vous dit que vous devriez faire et qu'elle ne vous donne pas le temps de faire. Je veux dire, c'est dans les modes opératoires, c'est dans les procédures, c'est dans la formation que vous avez eue. Et vous ne devriez pas faire ce prêt-là. Et vous le faites, et vous bâclez le dossier.
Je voulais simplement dire que lorsqu'on joue trop avec son propre idéal du moi, en général, c'est pas bon pour la santé, quoi. Voilà. Les dépressions nerveuses potentielles. Mais bon, c'est quand même ce qui se passe pour les salariés, c'est-à-dire c'est la souffrance psychique, je m'excuse, j'y reviens, mais voilà, on demande aux gens de jouer avec leurs propres idéaux, et ça, c'est coûteux, quoi. C'est trop cher, je trouve, mais enfin, bon...
Oui. Il y a le film, il ne m'aurait
peut-être
pas
une dernière remarque, peut-être des pistes aussi. Parce que finalement, bon, là, on est bien sur des mécanismes de reproduction de domination symbolique qui instaurent aussi une relation infantilisante. Et on n'est pas, je dirais, sur une relation d'adulte à adulte. Alors peut-être qu'effectivement, il faudrait peut-être trouver des formes un petit peu plus médiatées, justement, plus responsables, peut-être sans enjeu, justement. De la carotte et du bâton et de la punition infantilisante. Et je pense que peut-être arriver à une dimension plus adulte ferait peut-être, ce serait là le côté justement un peu plus positif justement, qui permettrait de grandir ensemble.
Je crois que c'est en montrant l'incohérence du système que du seul coup on se rend compte qu'il est possible de faire autrement. Enfin, ça c'est la stratégie pédagogique qu'on a fait.